Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission, au fil des pages, a pour sujet le livre du lieutenant-colonel Rémy Porte, Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale, qui est paru chez Perrin en octobre 2011. Mais avant de vous présenter cet ouvrage, permettez-moi de situer le cadre de cette émission, un cadre exceptionnel, puisqu'il ne s'agit pas, comme d'habitude, du studio de Canal Academy, mais d'une bibliothèque magnifique, historique, aux boiseries gris-bleutées, toutes remplies de livres, bien sûr, c'est celle de l'école militaire où nous enregistrons l'interview du lieutenant-colonel Rémy Porte. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous accueillir à Canal Academy plusieurs fois. Nous sommes très contents de vous retrouver cette fois-ci dans des lieux qui sont à la fois littéraires et militaires. Quelle est l'histoire de cette bibliothèque ?
Alors, l'histoire de la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons, qui est la bibliothèque patrimoniale de l'école militaire, et bien sûr intimement liée à l'école militaire elle-même. Donc une naissance sous Louis XV, une évolution progressive à la fin de l'Ancien Régime, et une accélération, si on peut employer l'expression, de son développement avec la Révolution et l'Empire, où la formation des officiers était de toute première importance, d'une part, et où elle a été richement dotée par des bibliothèques privées saisies sur les biens des immigrés, par exemple. Au cours du XIXe siècle, avec en particulier dans les années 1875-1878, l'installation de l'école supérieure de guerre, à proprement parler, elle n'a cessé de se développer et elle conserve aujourd'hui, je pense, les collections les plus complètes dans deux grands domaines, histoire militaire et stratégie et tactique militaire, les collections les plus complètes de la place parisienne avec la bibliothèque du service historique à Vincennes.
Vous avez dit qu'elle était patrimoniale, ça laisse entendre qu'il y a une autre bibliothèque à l'école militaire ?
Voilà, tout à fait. En fait, les fonds sont répartis en deux sous-ensembles, les fonds dits anciens qui se trouvent dans cette très belle bibliothèque, et les fonds dits modernes, postérieurs à la Deuxième Guerre mondiale, que l'on retrouve au centre de documentation de l'école militaire, qui est véritablement un outil de travail, de réflexion et de documentation pour tous nos stagiaires, tous les stages qui se déroulent sur le site de l'école militaire, mais qui est aussi très largement ouvert à tous les chercheurs dans le domaine histoire militaire, stratégie, défense, sécurité, dont les étudiants des masters des universités parisiennes et des écoles doctorales, par exemple.
Voilà, c'est une bibliothèque, au fond, ouverte au public
totalement
et aux chercheurs.
Au public, oui. Et aux chercheurs, tout
on
à fait.
On ne le sait sans doute pas assez, mais en tout cas, elle est magnifique. Dans cette bibliothèque ancienne, on a des boiseries magnifiques, des vitrines, mais même des balcons en fer forgé. C'est au fond un ancien appartement ici. On a l'impression que c'est un appartement. Il y a des cheminées, il y a des glaces. On a l'impression d'être un peu chez soi.
La bibliothèque est installée dans ses locaux depuis la fin du 19e siècle. Donc depuis plus de 100 ans maintenant, c'est un lieu de travail. Auparavant, s'agissant du corps principal de bâtiment de l'époque Louis XV, je pense qu'il s'agissait de salles de réunion et de travail, plus que de bibliothèque.
Sans doute. En tout cas, on a une vue magnifique sur la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, qui nous fait face. Donc tout ça va nous porter à bien parler de votre ouvrage, puisque c'est tout de même le sujet de cette émission. Un ouvrage tout récemment paru, je rappelle son titre, « Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale » par Rémy Porte, paru chez Perrin. Et c'est un ouvrage, il faut le dire d'emblée, énorme. Énorme, 645 pages, parce que c'est un outil et que cet outil n'existait pas jusqu'à présent. Alors pouvez-vous nous dire pourquoi il n'existait pas cet outil jusqu'à présent, un outil de chronologie de la Grande Guerre ?
En fait, j'ai conçu ce livre en réfléchissant à ce qui m'avait manqué à moi-même comme étudiant, si je peux faire un petit peu d'introspection. Et donc, deux outils à proprement parler m'avaient manqué. Un dictionnaire que j'ai réalisé en 2008 avec le professeur Cochet.
Oui, c'est une autre émission de Canal Academy, le dictionnaire de la Grande Guerre, oui.
Et complément de ce dictionnaire, la chronologie, qui permet aux amateurs, aux curieux, mais au premier chef pour moi, aux étudiants, de resituer chaque événement exactement dans son contexte. Quand on parle d'histoire, on ne peut pas se détacher de la chronologie.
Là, c'est donc la Grande Guerre au jour le jour, mais ce n'est pas seulement l'événement, il y a aussi commenter. Il y a le mot commenter dans le titre. Alors, quel commentaire avez-vous ajouté ?
Alors, il me paraissait un petit peu sec, un petit peu difficile à lire, de ne rédiger que quelques courtes phrases presque télégraphiques, tel jour, tel événement. Et j'ai essayé, dans la mesure du possible, et en fonction de la pagination déjà importante que vous soulignez et que m'avait autorisé l'éditeur, j'ai essayé, dans la mesure du possible, d'ajouter quelques mots précisant le contexte de chaque événement d'une part, et des commentaires qui sont extraits soit des documents officiels, des archives, soit de la presse de l'époque, soit des témoignages de témoins et d'acteurs.
Oui, il y a aussi beaucoup de témoignages, ce qui rend ce livre, qui aurait pu en effet être très sec à la lecture, on peut tout de même le lire avec grande émotion, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Mais ce qui m'a semblé aussi extrêmement intéressant, c'est que la Grande Guerre, c'est quand même d'une grande complexité, et que là, vous aidez à nous y retrouver, parce qu'il n'y a pas seulement le front français, mais il y a aussi tous les autres fronts. Je crois que c'est une guerre internationale, évidemment, c'est une guerre mondiale, mais vous avez insisté sur ce côté.
Oui, tout à fait. Alors, c'est là un choix presque rédactionnel. Nous connaissons bien en France, bien entendu, l'ensemble des événements militaires qui se déroulent entre le Vieil Armand sur les monts d'Alsace, puis les Vosges, Verdun, la Champagne, la Picardie, la Somme, les Flandres, entre la Suisse donc et la mer du Nord. Nous connaissons bien ce front de France, mais nous avons souvent une vision ou un souvenir très franco-centré de cette guerre, qui est d'abord une guerre mondiale. Elle l'est dès le mois d'août 1914, lorsque les Alliés s'emparent de la colonie allemande du Togo. Elle l'est à l'automne, lorsque les Japonais s'emparent de Tsingtao en Chine. Et on voit bien que la guerre va bien au-delà de nos frontières du Nord et du Nord-Est. Et puis, cela m'a permis de remettre, peut-être pas en valeur, mais de rappeler au moins l'importance du front oriental, où les armées russes, les armées du tsar, mènent des combats extrêmement durs, extrêmement difficiles, et les deux fronts sud-européens, que sont les fronts d'Italie et le front des Balkans à Salonique. Sans oublier l'Empire turc dans la guerre, et ne serait-ce qu'autour de l'Empire turc, il y a cinq fronts différents, les Dardanelles, le Sinaï, la Mésopotamie, la Perse et le Caucase.
Mais non seulement vous avez abordé tous ces fronts, donc au jour le jour, ce qui montre tout de même la grande complexité aussi que vous avez pu expliciter dans ce livre, mais vous avez aussi montré que la guerre ne se fait pas seulement sur les champs de bataille, elle se fait aussi dans les bureaux, dans les chancelleries, voire même dans les hôtels où on se rencontre. Et tous ces lieux, vous avez tenu à ce que ça figure dans votre livre.
Oui, dans la mesure où la Grande Guerre, puisque c'est le nom qu'elle porte très rapidement, dans la mesure où la Grande Guerre, donc, est bien sûr, au départ, un phénomène militaire, mais qui est en permanence à la fois en interaction et en interconnexion avec toutes les questions diplomatiques, politiques, sociales, culturelles, économiques, budgétaires de l'époque. Par exemple, la Grande-Bretagne fait le choix de financer sa guerre par l'impôt. La France va faire le choix de financer sa guerre par l'inflation. Deux politiques complètement différentes, etc., etc. Et on retrouve, que ce soit au sein de l'Alliance des États occidentaux, au sein de l'Entente, comme au sein des empires centraux, à la fois des divergences et des convergences dans tous les domaines.
Si vous le voulez bien, Rémy Porte, maintenant j'aimerais vous poser des questions plus personnelles, c'est-à-dire comment avez-vous travaillé ? D'abord, combien d'années de travail pour réaliser cette chronologie commentée de la Première Guerre mondiale ? Énorme travail, évidemment. Ça se pèse, ça se sous-pèse. Comment avez-vous procédé ?
Alors, on peut raisonner dans le court terme et dans le long terme. Dans le long terme, tout d'abord, c'est pour ainsi dire le résultat d'une grosse dizaine d'années de travail sur la Grande Guerre. Plusieurs centaines de livres lus, des milliers de journaux consultés, avec des prises de notes, des mètres linéaires de photocopies réalisées. Donc, voilà, c'est l'aboutissement de ces années de travail antérieure. À court terme, beaucoup plus prosaïquement, la rédaction en elle-même m'a demandé de l'ordre de 18 mois.
Est-ce un travail personnel ou est-ce votre travail en tant qu'officier dans l'armée? Enfin, quelle est la part professionnelle et la part personnelle?
Alors, c'est un travail strictement personnel. Au quotidien, mon emploi est tout à fait différent.
Puisque on voudrait savoir, alors.
Non, mais en fait, mes responsabilités à l'école militaire consistent à diriger un bureau de recherche sur les problématiques actuelles, et je souligne bien actuelles, d'engagement de l'armée de terre.
Oui, donc on n'est pas dans l'histoire, véritablement.
On n'est pas à Salonique, on est plutôt au Kosovo ou ailleurs.
Donc Rémy Porte, historien, c'est personnel, au fond.
Et c'est à la fois une passion et un loisir. Voilà.
Ça me paraît aussi intéressant de souligner, alors les dates que vous avez choisies, évidemment, la première des dates, ça va être le 28 juin 14, c'est l'assassinat de Sarajevo, ça ne surprendra personne. Mais ce qui est plus surprenant, en tout cas qui, moi, m'a surpris, c'est le dernier jour de la guerre, ça n'est pas le 11 novembre 1918 pour vous, c'est le 30 juin 1919. C'est-à-dire que votre livre, il ne s'arrête pas à 18, il continue sur la moitié de l'année 19. Pourquoi ?
Alors, le 11 novembre 1918 est une suspension d'armes, c'est un armistice. La guerre n'est pas terminée. Je me suis arrêté en juin 1919 parce que cela représente symboliquement la signature du traité de Versailles. Signature bien célèbre, au terme de 6 mois de conversation entre les alliés vainqueurs à Paris. J'aurais pu, mais toute chose trouve ses limites, j'aurais pu aller tout aussi bien jusqu'au 10 janvier 1920.
Oui, sur d'autres fronts, c'était pas fini.
Et puis l'état de paix effectif, le traité de Versailles ne rentre en application que le 10 janvier 1920. L'état de guerre ne disparaît totalement en France hexagonale, métropolitaine, qu'à l'automne 1919, quand sont levées les dernières lois sur la censure, etc. L'état juridique de guerre ne se termine pas avec le 11 novembre 1918.
Donc on ne dira plus la guerre de 14-18, mais on dira la Grande Guerre, voilà. Ou la Première Guerre mondiale.
Voilà.
Déjà, on va affiner notre vocabulaire. Alors je me suis livré à un petit calcul. J'ai finalement calculé que vous avez traité, s'il y a un événement par jour, mais il y a beaucoup d'événements pour un même jour, évidemment, 1774 jours.
Oui.
Ça vous paraît plausible?
Oui, tout à fait.
Quand vous avez commencé ce livre, vous aviez l'idée que ça allait faire près de 2000 jours à traiter?
Alors, pour être tout à fait franc, lorsque j'ai proposé ce livre au directeur de collection de Perrin et qu'il a accepté immédiatement, j'avais dans l'idée de réaliser un volume de l'ordre de 350 à 400 pages. Et puis à deux reprises, dans le cours de la rédaction, je lui ai envoyé des courriers électroniques en lui demandant l'autorisation de dépasser le volume initialement consenti, parce que plus j'avançais dans le travail, plus j'avais de choses à dire et plus l'ouvrage devenait important.
Alors on va peut-être citer le nom de ce directeur courageux chez Perrin.
Qui est Benoît Hiver.
Benoît Hiver, voilà, auquel on doit effectivement d'avoir donc maintenant en main cette grosse chronologie commentée de la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, une chronologie, on ne va pas la lire jour après jour, mais en même temps, on peut en lire un petit morceau, chaque lecteur est libre.
Alors, il y a effectivement deux façons d'aborder l'ouvrage, ou trois. La première étant la plus simple, c'est-à-dire vérifier à une date particulière si tel événement s'est effectivement déroulé à ce moment-là. Et deux façons un petit peu plus larges. D'une part, sur une période particulière, un mois, un trimestre, la durée de vie d'un gouvernement, etc. Essayer d'évaluer quels sont les problèmes principaux et la façon dont ils évoluent l'un par rapport à l'autre pendant cette période. Ou alors, prendre plutôt une thématique, prendre plutôt un sujet, et voir dans la durée de la guerre, comment ce problème, cette question, est plus ou moins importante, ou plus ou moins prise en compte par les autorités.
Alors si vous me le permettez, j'avais envie de vous lire ce qui s'est passé le 11 novembre, mais pas le 11 novembre 18 bien sûr, mais le 11 novembre 14. Voilà, alors je lis dans votre livre que ce jour-là, donc 11 novembre 1914, la 6e armée n'est plus subordonnée à Gallieni et revient sous les ordres de Joffre. C'est la fin de la bataille de la Marne. Les généraux Monoury et Dubail sont promis grand officier de la Légion d'honneur, on n'oublie pas les distinctions, et le général Foch, qui est aussi un de vos sujets de prédilection, car vous avez aussi écrit, ou en tout cas coordonné des actes de colloque sur Foch, et bien Foch est promu grand officier. Alors, il y a aussi la guerre qui se passe en Prusse orientale, et aussi, c'est là que j'ai appris, qu'elle se déclenche en Sud-Afrique, dans la partie sud-africaine de l'Afrique, parce que, et là vous citez justement les généraux des vieux Boers, nous considérons que l'Empire étant en guerre, l'Afrique du Sud est aussi en état de guerre contre l'ennemi commun. Et donc ça, c'est le genre de découverte que l'on fait en lisant votre livre, c'est-à-dire on avait oublié, enfin moi j'avais en tout cas oublié que l'Afrique du Sud était entrée en guerre à cette date-là. Vous voyez, c'est un exemple qui m'a semblé intéressant.
Mmh. Si vous me le permettez, cela justifie mon idée de départ de bien expliquer que cette guerre était une guerre mondiale. Nous avons oublié, parce que la France est le pays avec la Belgique qui sur son sol a sans doute le plus souffert, nous avons oublié que cette guerre était également fondatrice pour des pays comme l'Afrique du Sud, qui est devenu un État en tant que tel en 1910, et tout aussi fondatrice pour l'Australie, qui va envoyer des milliers d'hommes à Gallipoli. Et la date de débarquement du corps australien à Gallipoli est quasiment une fête nationale aujourd'hui encore en Australie.
Donc on apprend en vous lisant une autre chose, par exemple le 11 novembre 1916, parce que j'ai fait tous les 11 novembre pour ne rien vous cacher, les troupes allemandes s'emparent d'écoles à l'ouest de la capitale roumaine, donc là on est sur un front d'est. Le gouvernement grec provisoire de Venizelos déclare la guerre à la Bulgarie, là c'est effectivement toute la guerre autour de la Grèce. Et alors j'ai appris cela, je ne savais pas. Par ordre de Cardona, les généraux italiens sont autorisés à pratiquer la décimation, c'est-à-dire l'exécution de militaires pris au hasard, dans les unités qui connaissent des mouvements collectifs d'insubordination. Donc je cite, « Les commandants ont le droit et le devoir de tirer au sort parmi les suspects et de les punir par la peine de mort ». C'est aussi quelque chose qu'on n'a peut-être pas appris dans nos livres d'histoire, non. Que l'on découvre dans votre livre, comme
non,
cela.
Non, parce que là également, les Français ont été très légitimement préoccupés et se sont intéressés aux conditions de déroulement de la guerre sur le front de France, sur leur propre sol. Mais on a oublié qu'en termes de discipline et de répression des mutineries, d'autres pays ont été bien plus durs que le nôtre.
Mais le nôtre l'a été aussi un peu ?
L'a été en partie, mais les études relativement récentes, en particulier du général Bach par exemple, montrent qu'entre le nombre de militaires dits mutins, mais il faut le mettre entre guillemets parce que ça recouvre beaucoup de circonstances et de conditions personnelles différentes, entre le nombre donc de militaires dits mutins arrêtés, ceux qui sont jugés, ceux qui sont condamnés, puis ceux qui sont condamnés à la peine capitale. Et enfin, parmi ceux-là, ceux qui sont effectivement exécutés, les chiffres décroissent extrêmement rapidement.
Et en Italie, c'était pire ? C'est-à-dire, il y a eu vraiment des
mises
chiffres, à mort ?
Il y en a eu un certain nombre avéré. Les chiffres définitifs restent très mal connus. Et on considère que globalement, il y a eu en Italie de l'ordre de, mais ça reste de l'ordre de grandeur, un tiers de plus qu'en France.
Donc je ne saurais que encourager nos auditeurs à se procurer ce gros ouvrage chronologique augmenté de la Première Guerre mondiale. Je voudrais rappeler que l'auteur Rémy Porte, et vous êtes docteur en histoire, professeur à l'École supérieure des officiers de réserve, après avoir dirigé la division recherche et prospective du service historique de la défense. Bref, vous êtes un spécialiste à la fois des questions militaires et de l'histoire de cette Première Guerre mondiale, parce qu'on vous doit d'autres ouvrages que je voudrais, si vous me le permettez, citer. Donc, vous avez publié plusieurs ouvrages dans cette maison d'édition, c'est 1418, c'est cette maison qui fait des livres spécialisés dans cette histoire. Donc, la mobilisation industrielle. Premier front de la Grande Guerre, point d'interrogation, c'était en 2006. La conquête des colonies allemandes 14-18, naissance et mort d'un rêve impérial aussi en 2006. Et du Caire à Damas, français et anglais au Proche-Orient, donc la France et la guerre oubliée du Moyen-Orient, donc ça c'était en 2008. Et alors le plus récent de vos ouvrages, c'est le commandement suprême de l'armée allemande et ses décisions essentielles. Alors ça, c'est un ouvrage que l'on doit à un Allemand, que vous avez donc traduit.
Alors j'ai repris le texte intégral de la première édition des Souvenirs de guerre du général Falkenhayn, et j'en ai fait une édition annotée et commentée.
En France, donc toujours chez 1418 en 2010, et aussi, on l'a dit tout à l'heure, les actes du colloque Foch, consacrés à Foch, qui sont parus également à 1418. Alors sur Canal Académie, on trouve deux émissions avec vous, mais trois émissions, parce que je crois qu'on a parlé de ce Foch, justement.
Me semble-t-il, oui.
Voilà, donc trois émissions, une sur Foch, une sur le dictionnaire de la Grande Guerre, que vous avez co-dirigé avec François Cochet, c'est un bouquin chez Robert Laffont, c'était en 2008, et puis une autre émission sur la Haute-Silésie. Ça, c'est publié chez Rive-Neuve Éditions.
Tout à fait.
Merci, colonel, de nous avoir reçus dans ce magnifique cadre. Merci de nous avoir présenté votre ouvrage. Donc, Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale, c'est paru aux éditions Perrin.